Voilà, on va lire un verset d'introduction et on l'avait lu la semaine dernière pour introduire notre message de la semaine dernière et j'avais dit que je donnerais une suite à ce message, la deuxième partie de ce message. Donc on va quand même relire ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Effectivement, on a parlé de l'excellence selon Dieu, mais on va relire le verset d'introduction. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Voilà, on va continuer le message de la semaine dernière où nous avons parlé de l'excellence et plus précisément de l'excellence selon Dieu. Alors, juste pour peut-être rafraîchir notre mémoire et puis pour ceux qui peut-être étaient absents la semaine dernière, juste rappeler rapidement quelques points que nous avions vus ensemble. Donc, nous avions parlé de la définition de l'excellence. On retrouve deux fois ce terme ici, le verbe exceller. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens et pourtant, les Corinthiens, nous semble-t-il, avaient quelques points à régler. Mais Paul parle qu'ils excellent en toutes choses. Et donc nous avons vu cette définition, nous avons vu que l'excellence est un très haut degré de qualité, il y a une question de supériorité dans la qualité, et puis aussi il y a une notion d'abondance dans l'idée, le concept de l'excellence. Puis nous avons parlé de Dieu et l'excellence, notre Dieu est excellent, et tout ce qu'il fait est excellent. Et toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, vient de son cœur jusqu'à nous. Puis nous avons bien sûr établi la différence entre l'excellence selon Dieu et l'excellence selon le monde. L'excellence selon le monde est très souvent le fruit d'une gloire humaine qui est recherchée pour être vue. On l'a vu la semaine dernière. Et puis, il y a un désir de supériorité, voire d'intérêt. Ça, c'est pour les points principaux que nous avons vus. Et puis, nous avons parlé de l'excellence selon Dieu. C'est, si nous cherchons à exceller, c'est pour la gloire de Dieu avant toute chose. Amen. Nous cherchons à exceller pour la gloire de Dieu en nous rappelant, eh bien, que notre capacité nous vient du Seigneur. Nous avons aussi parlé de la perfection et de l'excellence, et nous avons vu aussi que le Seigneur travaille en nous par le Saint-Esprit afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ et que nous puissions avoir en nous les sentiments eh bien qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Alors nous sommes arrêtés là, et maintenant nous allons voir la suite. L'apôtre Paul parle donc d'excellence, et nous avons établi certains points. J'aimerais peut-être revenir juste sur un point que j'avais très rapidement soulevé la semaine dernière, mais j'aimerais m'y attarder un petit peu plus ce matin, et en parlant de la tyrannie de la perfection, ou plutôt la tyrannie du perfectionnisme. Lorsque nous cherchons l'excellence, rappelons-nous que c'est pour la gloire de Dieu, mais ne tombons pas dans un travers qui serait le perfectionnisme. Le perfectionnisme nous rend toujours insatisfaits de ce que l'on fait. Certains se sont fait un Dieu, j'allais dire, qui est insatisfait de tout ce qu'on pourrait faire. Voilà. On pense n'être jamais à la hauteur de Dieu. Qui peut être à la hauteur de Dieu, d'ailleurs, hein ? Qui peut être à la hauteur de... On ne sera de toute manière jamais à la hauteur de Dieu. Déjà, faut bien que ça soit clair. Et c'est vrai, le perfectionnisme, quand ça atteint notre cœur, eh bien, il nous tyrannise, il nous culpabilise en nous disant « mais tu peux faire mieux ». C'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, mais ça devient une véritable tyrannie à tel point que on n'est plus épanoui dans sa foi, plus épanoui dans sa joie. Il paraît que nos voisins, les Anglais, aiment bien avoir un gazon impeccable. Peut-être vont-ils mesurer que tous les brins de gazon, d'herbe, de pelouse vont être, alors là, ça montre 2 cm, vont tous être à 2 cm. Essayez pour voir. Alors peut-être, vous aurez du mal. Je ne sais pas comment font nos voisins et nos bien-aimés anglais. Eh bien, peut-être sont-ils perfectionnistes dans la tonte de leur pelouse, mais ça, bien, on n'est pas là-bas pour le savoir. Mais enfin, en tout cas, ils sont réputés pour avoir un gazon impeccable. Essayez, si vous avez un jardin, à faire ce que cet homme fait en essayant de bien mesurer, eh bien, que tous les brins d'herbe fassent bien 2 cm. Belle image du perfectionnisme. Vous pouvez toujours essayer, il y en aura toujours. Vous savez, c'est comme les cheveux déjà. Il y en a toujours un qui dépasse. Voilà, cette image du gazon pour nous montrer qu'en fin de compte, on ne pourra jamais atteindre la perfection. Bien sûr, la perfection, comme nous l'avons vu la semaine dernière, elle est en Christ. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs par la parole du Seigneur. Mais pour vous dire vraiment que si nous tombons dans ce piège du perfectionnisme, eh bien, c'est une véritable tyrannie. On a parlé la semaine dernière du légalisme, et ça peut bien sûr être du légalisme, non le légalisme dû à l'observance de la loi de Moïse pour trouver sa justification, mais un légalisme dû au perfectionnisme, cherchant à atteindre vraiment la perfection pour essayer d'être agréable à Dieu. Peine perdue. Peine perdue. Le meilleur antidote au perfectionnisme, c'est la grâce. C'est la grâce. Rappelons-nous que nous avons tout par grâce. Je trouvais important de parler de ce point lorsque nous parlons de l'excellence. Oui, nous cherchons l'excellence pour la gloire de Dieu. Mais n'oublions pas que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand bien même on multiplierait les efforts pour pouvoir atteindre la perfection absolue, c'est pas ça qui nous rendrait agréable à Dieu. C'est la foi qui nous fait entrer dans cette grâce du Seigneur. L'apôtre Paul dira, eh bien, aux Éphésiens, de même que vous excellez en toutes choses. Alors, nous excellons, et l'apôtre Paul dira que de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Nous sommes appelés donc à exceller en toutes choses. Le terme est vague. Il est vague, mais comporte en lui-même tout ce qui a attrait à la vie chrétienne, et non seulement à la vie chrétienne, mais à notre comportement, eh bien, dans la vie de tous les jours, dans le travail. Le Seigneur fait de son peuple une vigne excellente. Et cette vigne excellente, eh bien, est le fruit du Saint-Esprit en nous. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que ce soit dans le travail, bien sûr, nous cherchons à faire bien notre travail. Lorsque nous avons aussi une responsabilité, lorsque nous avons un service dans l'Église, bien sûr, nous cherchons à bien accomplir ce service. Et puis, dans notre vie chrétienne, dans notre recherche, eh bien, de la sanctification, bien sûr, tout cela, nous y mettons tout notre cœur. Parce que nous avons le désir que notre Seigneur soit glorifié en nous, qu'il soit glorifié au travers de nous, qu'il soit glorifié dans notre famille. Et le Seigneur, il fait son œuvre dans nos cœurs, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Il fait de son peuple une vigne excellente. Il fait de son peuple une vigne excellente par l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a pu dire dans Jean chapitre 15, il prend cette image du cep et des sarments. Et il a dit, si vous portez du fruit, qu'est-ce que fait le vigneron, qu'est-ce que fait son père? Il va émonder les sarments. pour qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Et ça fait de nous une vigne excellente, qui porte de bons fruits, qui porte beaucoup de fruits. Et il dira, c'est ainsi que, si vous portez beaucoup de fruits, que son Père est glorifié. Donc nous sommes appelés vraiment à produire ce fruit en abondance, et c'est ainsi que nous serons une vigne excellente. Mais rappelons-nous que Jésus a pu dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire, et il le dit dans le contexte de Jean chapitre 15, lorsqu'il parle du cep et des sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui est là et qui, par la parole de Dieu, nous reprend. D'ailleurs, pour revenir aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur dira, eh bien, que sa parole, les paroles qu'il aura adressées, a produit dans leur cœur une repentance, une tristesse selon Dieu. Et parce qu'il y a eu cette tristesse selon Dieu, cela a produit quelque chose dans leur cœur. Ils se sont détournés de certaines pratiques, détournés de certains comportements. Cela a produit une repentance dans leur cœur et ainsi ils ont été émondés. Lorsque nous recevons ainsi une parole, c'est vrai qu'il y a des choses que Dieu met dans notre cœur et qui vont produire en nous une tristesse selon Dieu, parce que nous avons compris à ce moment-là que ce n'était pas le chemin de Dieu pour nous, que ce n'était pas la voie de Dieu, que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et alors on s'en détourne. Sur le coup, c'est vrai que ça produit cette tristesse selon Dieu. Mais quel épanouissement après, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Vous excellez en toutes choses. Après, l'apôtre Paul parle de la foi. Il parle de la foi. Alors, on ne va peut-être pas voir tous les domaines que l'apôtre Paul énumère ici, mais il dira que vous excellez en foi. Faut bien se rappeler que c'est aux Corinthiens qu'il adresse ces paroles-là. Et je crois que dans l'église de Corinthe, il y avait certes des défauts. Et l'apôtre Paul va écrire certaines choses pour rectifier certaines erreurs qu'il y avait chez les Corinthiens. Néanmoins, il ne ferme pas les yeux sur les qualités qu'il pouvait aussi y avoir sur cette église. Et il leur dit, vous excellez en foi. Vous excellez en foi. Disons tout d'abord que la foi est excellente. La foi en Dieu est excellente parce qu'elle nous amène à saisir toutes les grâces de Dieu. Ils excellent en foi. J'aimerais juste nous rappeler ce matin ce que Jésus a dit au sujet d'un centenier romain qui avait un serviteur qui était malade. Cet homme a son serviteur qui est malade et demande bien sûr à Jésus de guérir cet homme. Et il va lui dire ceci, il a des supérieurs et étant un officier, un centenier, il a aussi des soldats sous ses ordres. Et quand il dit à l'un « va », il va, et quand il dit à l'autre « viens », il vient. Donc il connaît, il sait qu'une parole donnée par quelqu'un qui a une place d'autorité va produire une obéissance. Or il sait, en disant ceci, que si Jésus prononce une parole de guérison sur son serviteur, la maladie, elle s'en va. Jésus a même été étonné d'une telle foi. Il dira, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Même en Israël. Dites-moi, cet homme, on peut le dire, excellait en foi, n'est-ce pas? Il excellait en foi. Comprenons bien, frères et sœurs, que notre Seigneur a toute autorité. Il dit et la chose arrive. Même si, à nos yeux, c'est infaisable, insurmontable, que la lumière soit, et elle fut. Notre Dieu a toute autorité. Il a autorité sur l'épreuve par laquelle nous passons en ce moment. Il a autorité sur la maladie dont nous sommes atteints. Il a autorité sur un problème que nous pouvons avoir. Il a autorité. Dis seulement un mot, Seigneur. Alléluia. Dis seulement un mot et je serai guéri. Seigneur, tu vois mon fardeau, tu vois mon épreuve. Et nous voulons avoir cette foi qui est fondée sur la parole de notre Seigneur. Que son nom soit glorifié. En contrepartie, il y a aussi la parole que Jésus va adresser à ses disciples. On a d'un côté ce centenier romain. Jésus a été étonné de sa foi, il excellait dans la foi. On pourrait s'attendre à ce que les disciples de Jésus excellent aussi dans la foi. Et à un moment donné, ils sont devant un blocage, ils sont devant un mur. Ils ont prié chacun à leur tour parce qu'il y avait là quelqu'un qui était possédé par un mauvais esprit. Mais, eh bien, ils ont pas pu. Chacun à leur tour, ils ont essayé, on n'a pas pu. Et ils vont dire à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et parfois, nous sommes devant des blocages. Parfois, il y a des choses qui nous semblent insurmontables. Et on pourrait poser la question au Seigneur, mais pourquoi n'avons-nous pas pu? Qu'est-ce que va répondre Jésus à ses disciples? C'est à cause de votre incrédulité. Pour le moins qu'on puisse dire, à ce moment-là, du moins à ce moment-là, les disciples n'ont pas excellé dans la foi. Et Jésus dira, mais si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, allez, tu t'en vas de là et tu vas ailleurs, hein? Elle le ferait. Essayez de vous placer devant le pic du midi. Bien sûr, il faut que ça soit quelque chose qui entre dans le cadre du bon sens et puis bien sûr de la volonté de Dieu. Mais si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est pas grand un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, allez, tu t'en vas ailleurs. Elle le ferait. Nous voulons exceller dans la foi, sachant en qui nous avons cru. Alléluia. Nous avons placé notre foi dans le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Celui qui dit et que la chose arrive, que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Il peut, nous libérer, il peut nous guérir. Nos problèmes sont rien pour lui. Ils sont énormes pour nous. C'est comme une montagne, mais pour lui, c'est rien. C'est rien. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot. Ce qui rend la foi encore plus excellente, c'est l'amour. C'est l'amour. J'aimerais avec vous lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire ensemble. Le verset 31, à partir du verset 31, et puis le début du chapitre 13. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Comprenons bien ce matin, frères et sœurs, que c'est l'amour qui rend la foi excellente. Pour revenir au centenier romain, non seulement cet homme reconnaissait l'autorité de la parole de Jésus, il dit et la chose arrive, mais Quand on lit bien le texte qu'on trouve dans Matthieu chapitre 8, verset 5, vous pourrez lire ce passage, on voit que cet homme, ce centenier romain, était très attaché à son serviteur. Il affectionnait son serviteur. Il aimait son serviteur. Et c'est cet amour pour son serviteur qui l'a poussé à trouver Jésus pour que Jésus guérisse son serviteur. Ainsi, je veux dire que, oui, il avait la foi, mais ce qui a motivé sa démarche, ce n'est pas la foi, c'est l'amour. Oui, l'amour a été combiné à la foi et il s'opérait ce miracle. Quand j'aurai, toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, est-ce que je peux dire que j'excelle dans la foi? Certains pourront dire, quel homme de foi! Et peut-être là que c'est une gloire humaine qui arrive. Mais ce qui va rendre la foi excellente, c'est l'amour. Il est dit, écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4, il nous est parlé d'un homme, Abel. Abel. Or, il est dit d'Abel que c'est par la foi qu'il a offert un sacrifice plus excellent que son frère Caïn. Par la foi. Par la foi que Abel a offert ce sacrifice plus excellent que son frère Caïn. Il a honoré Dieu par son sacrifice. Et il a cru que ce n'était pas par des efforts humains qu'on pouvait se rendre agréable à Dieu, mais que c'était par la foi ce Dieu qui vraiment avait toute la place dans le cœur d'Abel. Abel aimait Dieu et il voulait le meilleur pour son Dieu. Il voulait le meilleur pour la gloire de son Dieu. Alors nous voulons chercher vraiment à être comme Abel, comme ce centenier romain. Nous voulons chercher à exceller dans la foi. L'apôtre Paul parle aussi de la connaissance. Les Corinthiens excellaient en connaissance. Ils excellaient en connaissance. L'ignorance n'est bonne pour personne. N'est-il pas écrit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » Ils avaient oublié l'importance de la connaissance de Dieu. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. L'apôtre Paul écrira aux Corinthiens à plusieurs reprises, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et il va introduire certains sujets avec cette phrase, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Donc on voit bien l'importance de la connaissance. Cette connaissance qui nous fait connaître, bien sûr, la parole de Dieu qui nous fait connaître ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui, cette connaissance qui nous aide à comprendre la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous voulons exceller en connaissance, mais ce n'est pas de la connaissance pour de la connaissance. Car là encore, ce qui rend la connaissance excellente, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, on l'a lu tout à l'heure, « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » C'est l'amour qui rend la connaissance excellente. L'apôtre Paul écrira encore dans 1 Corinthiens chapitre 8, on peut lire ensemble ce passage, Corinthiens 8, verset 1er au verset 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle. L'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc on voit même que ce qui est important et le plus important, c'est qu'on soit connu de Dieu. C'est qu'on soit connu de Dieu. Ici, l'apôtre Paul nous rappelle que la connaissance enfle. C'est-à-dire que la connaissance nous enorgueillit. Ah, moi, je sais. Moi, je sais. Et si nous cherchons à exceller dans la connaissance, dans ce but-là, nous tombons dans le piège de rechercher l'excellence selon ce monde. C'est-à-dire, comme nous l'avions dit la semaine dernière, une excellence qui va nous glorifier. On va dire, moi je sais tout sur la parole de Dieu, moi je suis capable de vous expliquer tout le livre du Lévitique, capable de vous expliquer tout le livre de l'Apocalypse, et j'en passe, et des meilleurs, très bien. Mais à quoi cela te sert-il? À quoi cela sert-il s'il n'y a pas l'amour? À quoi sert-il d'avoir la connaissance s'il n'y a pas l'amour? Parce que c'est l'amour qui va amener cette connaissance à s'appliquer d'une manière concrète dans la vie. Le Seigneur va reprendre l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, une église qui avait beaucoup de connaissances, une église qui était capable de réfuter les faux docteurs, qui était capable vraiment de discerner des faux enseignements, les faux apôtres. Une église qui avait donc une bonne connaissance, une bonne assise doctrinale. Mais, il y a un mais. Le Seigneur avait quelque chose à lui reprocher. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce qui rend la connaissance excellente, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et bien sûr l'amour pour les autres. Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Cette connaissance-là, elle surpasse toute autre chose. Dans Philippiens chapitre 3, verset 8, Philippiens chapitre 3, verset 8, on peut même lire le verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. » Amen. L'apôtre Paul dit que toutes ces choses qui étaient pour lui autrefois un gain, il pouvait se vanter, « Ah ben moi, je suis de la tribu de Benjamin. » Or, la tribu de Benjamin était une tribu respectée en Israël. Il y avait comme ça des tribus qui étaient plus respectées que d'autres, et certains pouvaient s'enorgueillir à « Moi, je suis de la tribu de Benjamin. » Il y avait ainsi trois tribus qui étaient regardées un petit peu comme étant supérieures, la tribu de Benjamin, la tribu de Juda et la tribu de Lévi à cause du sacerdoce. Et il aurait pu se glorifier de cela. En plus, il était circoncis, hébreu des hébreux. Voilà. Il met en avant tous ces avantages, j'allais dire, que lui procurait cette vie avant de connaître Christ. Et puis l'apôtre Paul était un homme très instruit dans la loi de Moïse, un érudit en son temps, élevé au pied de Gamaliel. Dès qu'il était enfant, l'apôtre Paul avait reçu les enseignements de la Torah. Il était capable vraiment de non seulement de réciter, parce que ça faisait partie aussi de leur enseignement, mais capable vraiment de connaître beaucoup de choses sur tout l'Ancien Testament, sur la loi et puis sur les prophètes. Mais il ne connaissait pas Jésus. Mais lorsque Jésus s'est révélé à lui, lorsque cette connaissance qu'il n'a pas pu trouver dans tous ses livres, mais cette connaissance qui lui est parvenue par le Saint-Esprit, est venue dans son être, dans son cœur, dans ses pensées, dans toute son âme, alors, là, il a bien sûr compris quelle était la vanité de sa vie, et il s'est détourné de ces choses qui étaient pour lui des gains, qui lui assuraient une place dans ce monde. Cet homme qui était, il le dit ailleurs, irréprochable à l'égard de la loi, il avait beaucoup de zèle. On peut dire que l'apôtre Paul était aussi en son temps un perfectionniste. Il pouvait se vanter d'être pharisien. Il pouvait se vanter, voilà, d'observer la loi, d'observer tous les sabbats et tout ce qui allait avec. Mais vanité des vanités. Lorsque Jésus est venu dans sa vie, lorsqu'il a connu le Messie, Jésus, le Fils de Dieu, toutes ces choses qui étaient pour lui des gains, il les a vues comme une perte. Il s'en est détourné. Parce que Jésus a su toucher son cœur et parce qu'il a connu Jésus. Je disais tout à l'heure que Jésus n'est pas une théorie. Bien sûr, il y a des enseignements au sujet de Jésus et c'est important de les connaître. Mais on pourrait avoir toute la connaissance au sujet de Jésus, au sujet des enseignements sur la personne de Jésus si nous n'avons pas cette connaissance de Jésus, cette connaissance du cœur. Nous n'excellons pas dans la connaissance. Et mon peuple périt, faute de connaissance. Et quand nous lisons bien ce texte, il est parlé de la connaissance de Dieu, une connaissance qui est là dans le cœur, que nous ne pouvons pas acquérir au travers d'écoles, au travers d'académies, quelles qu'elles soient. Mais c'est dans cette communion avec le Seigneur que nous apprenons à le connaître. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et alors seulement, oui, nous allons exceller dans la connaissance. Nous allons exceller. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus nous avançons dans notre foi, plus nous avançons dans notre vie chrétienne, plus le Saint-Esprit nous fait découvrir la splendeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus nous connaissons notre Seigneur, plus nous progressons dans cette connaissance, dans l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, plus nous nous détournons du péché, plus nous nous détournons d'une vie qui est vaine. Vous savez, c'est alors facile de se détourner du péché. Parce qu'on a connu celui qui dépasse toute chose. On a connu Jésus-Christ. Ce n'est plus, eh bien, un fardeau, ce n'est plus une peine que de suivre Jésus-Christ, parce qu'on l'a connu. L'apôtre Jean dira que ses commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. La vie chrétienne, elle n'est pas pénible. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas pénible. Jésus dira que son joug est léger. Son fardeau est doux. Alléluia. Ou alors, c'est que si pour nous c'est difficile, c'est que peut-être on est tombé dans le piège du perfectionnisme, où il faut vraiment être parfait sous tout rapport pour pouvoir être agréable à Dieu. Non. Et je dis non encore. Bien sûr, nous sommes appelés à progresser dans la foi. Bien sûr, nous sommes appelés à progresser, à rechercher la sanctification. Mais rappelons-nous que nous avons tout par grâce. Alléluia. Et quand nous grandissons dans la connaissance du Seigneur Jésus, alors, comme l'apôtre Paul, eh bien, nous pouvons renoncer à toute chose. Nous pouvons renoncer à ces choses qui sont vaines, à ces choses qui nous éloignent de Dieu, par la foi en lui, que son nom soit glorifié. Alléluia. Cette connaissance-là, elle nous libère. On a chanté quelques chants tout à l'heure sur la délivrance. cette connaissance de Jésus-Christ, cette excellence de la connaissance de Jésus-Christ, elle nous libère. Alléluia, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos cœurs. L'apôtre Paul parle encore des Corinthiens qu'ils excellaient en parole. Alors là, rien que ça, on pourrait en faire tout un dimanche. Jacques chapitre 3, j'en dis pas plus, vous le lirez chez vous. Oui, nous voulons avoir une parole qui serve à l'édification des autres, qui est assaisonnée de sel, comme nous dit la parole de Dieu, une parole qui va communiquer une grâce aux autres. Ils excellent aussi, vous excellez en zèle à tous égards. En zèle, oh gloire à Dieu. Et puis dans votre amour pour nous, dans votre amour pour nous, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Frères et sœurs, que notre Seigneur soit glorifié dans notre vie. Et nous voulons tout faire pour rechercher la gloire de Dieu. Nous voulons tout faire pour que Dieu soit honoré au milieu de nous, que son nom soit glorifié. On va prier ensemble, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. À toi soit l'honneur, la force et la puissance. Seigneur, garde-nous de tomber dans le légalisme. Garde-nous, Seigneur, de tomber dans ce perfectionnisme. Mais nous voulons tout faire pour que tu sois glorifié en nous, Seigneur. Sachant, Seigneur, que si tu nous acceptes dans ta présence, c'est une pure grâce de ta part. Et nous ne voulons pas nous en priver, nous ne voulons pas nous priver de la grâce de Dieu. Seigneur, quoi que nous fassions, nous voulons que tu sois glorifié. Seigneur, révèle-nous encore plus qui tu es. Nous voulons grandir dans cette connaissance de toi, Jésus. Grandir dans la foi, dans l'amour, cette voie par excellence. Afin d'être cette vigne excellente qui produit encore plus de fruits pour la gloire de son Dieu. Oh, merci Seigneur. Parce que si nous sommes parvenus jusqu'ici, c'est encore un effet de ta grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Et tu es patient à notre égard et nous te demandons grâce pour les jours qui arrivent. Tu vois qu'il y a peut-être des bien-aimés qui sont malades dans leur corps. Des bien-aimés qui souffrent à cause d'une situation difficile dans leur famille. Seigneur, dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot. Seigneur, c'est toi qui guéris les malades. Oui, tu guéris les malades. Dis seulement un mot, Seigneur. Alléluia. Un bon dimanche et à très bientôt.